Je vous propose d'entendre ce matin deux textes, l'un dans le livre du Deutéronome, au chapitre 10, du verset 12 au premier verset du chapitre 11. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu en suivant toutes ses voies, en aimant et en servant l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, en observant les commandements de l'Éternel et ses prescriptions telles que je les institue pour toi aujourd'hui, afin que tu sois heureux. C'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartiennent le ciel et le ciel du ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est de tes pères seulement que l'Éternel s'est épris, ce sont eux qu'il a aimés, et après eux c'est leur descendance. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne vous montrerez plus rétif. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant, digne de crainte, qui ne fait pas de favoritisme et qui n'accepte pas de pot de vin, qui défend le droit de l'orphelin et de la veuve, qui aime l'immigré et lui donne du pain et un manteau. Et vous aimerez l'immigré, car vous avez été des immigrés en Égypte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras. C'est lui que tu serviras. C'est à lui que tu t'attacheras. C'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta louange, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait chez toi ces œuvres grandes et redoutables que tes yeux ont vues. Tes pères sont descendus en Égypte au nombre de 70, et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles du ciel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu garderas toujours ses observances, ses prescriptions, ses règles et ses commandements. Et puis dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19, les versets 1 à 10, la rencontre de Jésus avec Zachée. Jésus entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Aujourd'hui, dimanche de la Réformation, c'est un jour avec un souvenir. un jour pour un souvenir qui prend la forme d'une célébration. Le souvenir, celui d'un geste, formellement celui de l'affichage par Martin Luther de ses 95 thèses contestant la confiscation et la marchandisation du salut, 95 thèses affichées sur la porte d'une église. Mais plus profondément, le souvenir est celui du geste de la réforme, celui d'une reprise de lecture et d'interprétation qui redonna à l'Évangile une clarté, une acuité et un dynamisme enseveli dans les replis de la religion qui, tout en s'en réclamant de cet Évangile, l'avait soigneusement mis à l'écart par l'exercice de son propre pouvoir. Nous nous souvenons donc aujourd'hui aussi de ce que la religion et les institutions qui lui donnent forme peuvent toujours se couper, oublier le cœur battant de leur raison d'être et transformer l'Évangile de Jésus-Christ en code pénal. Aujourd'hui, évoquer Martin Luther, le réformateur allemand, c'est se souvenir aussi de ceux qui l'ont précédé dans ce mouvement de retour à l'Évangile et à une existence évangélique. Pierre Valdot et les Vaudois au XIIe siècle. John Wycliffe et les Lollards en Angleterre au XIVe siècle. Jean Hus, le théologien de Bohême, brûlé au XVe siècle. Leur souvenir est couplé, associé à celui des autres réformateurs que Martin Luther, le Suisse Ulrich Zwingli, le Français Jean Calvin, pour ne citer qu'eux. Ce souvenir du geste de la réforme rassemble ainsi une diversité de noms, de visages, de trajectoires, de pensées, d'écrits qui nourrissent toujours les Églises et notre Assemblée aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce souvenir ne consiste pas à faire œuvre d'historien, du moins pas seulement, car la profondeur de vue des historiens, leur capacité de traduction, leur rigueur sont vraiment indispensables pour nous aider à aborder, à comprendre la puissance des mouvements et la qualité des transformations de la réforme. Mais aujourd'hui, avec toute cette assemblée de figures prestigieuses que sont nos pères dans la réforme et de figures moins connues car ils n'ont pas été seuls, toute cette assemblée réunie dans notre souvenir, et nous pourrions les imaginer quelque part entre les tribunes et sous la verrière, nous refaisons le geste du retour aux Écritures dans la fidélité à l'Évangile comme nous le faisons chaque dimanche et plus encore ensemble ou individuellement. Et aujourd'hui, nous lisons ces deux textes, porteurs chacun d'un « aujourd'hui » qui résonne à travers les siècles qui nous séparent de leur écriture, un « aujourd'hui » qui n'est pas celui de leur contexte d'écriture, mais celui de leur lecture, l'aujourd'hui d'un présent renouvelé, d'un temps distingué, un temps mis à part. Oui, aujourd'hui, c'est un jour important, car, comme le dirait Martin Luther, il est un jour devant. Aujourd'hui, c'est un jour devant Dieu, devant le monde, devant les autres, devant soi-même. Ces deux textes en témoignent, et ils le font en imprimant dans l'aujourd'hui, chaque aujourd'hui, en y imprimant une bonne nouvelle. Bonne nouvelle dans le livre du Deutéronome, dont la visée est celle du bonheur d'Israël. Un bonheur qui se tient dans cette vie devant, dont le texte déploie les dimensions. Vivre devant Dieu, en craignant Dieu. Alors la crainte de Dieu, ce n'est absolument pas la peur de Dieu. Craindre Dieu, c'est le reconnaître comme le Dieu libérateur et le respecter comme Dieu, c'est-à-dire celui sur lequel on ne peut pas mettre la main. C'est d'une autre manière ce que nous portons en prière lorsque nous disons ensemble « que ton nom soit sanctifié. Nous ne vivons pas devant un Dieu qui fait peur, ni devant un Dieu à redouter, ni devant un Dieu qui accable et condamne, mais devant un Dieu dont la transcendance fait barrage à l'hubris des humains, à leur propre démesure qui altère toujours leur humanité et sert toujours le malheur. Ensuite, vivre devant les autres, à l'image de ce Dieu qui ne fait pas de favoritisme, qui n'accepte pas de pot de vin, qui défend le droit de la veuve et de l'orphelin, et qui aime l'immigré. Cela se passe de commentaires. Ensuite, encore, vivre dans le monde comme étant choisi par Dieu. Choisi, élu, appelé, et ce n'est jamais au détriment de qui que ce soit. C'est une responsabilité particulière dans le monde. La responsabilité d'une fidélité, d'une éthique, d'un témoignage que tout appartient à Dieu, ciel, ciel du ciel, terre et tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire qu'il est question là d'une qualité particulière de vie sur terre, vivre avec et vivre ensemble. Vivre devant soi, enfin. Le cœur circoncis, sans se montrer rétif, c'est-à-dire en ayant répondu au choix de l'Éternel, par le choix de l'Éternel. Choix de l'Éternel comme boussole d'existence, comme lumière de vie, comme fondement d'être, de tout son être. Et puis, bonne nouvelle également, dans le récit de Luc, dans la rencontre de Jésus avec Zachée, un jour de bonheur pour le chef des collecteurs d'impôts. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et c'est toute l'existence de Zachée qui est bouleversée, transformée par cette parole qui brise mauvaise réputation, préjugés, jugement des autres et de lui-même sur lui-même. Tout ce qui l'écrasait, le rapetissait, le réduisait en pécheur. La joie de Zachée, c'est la joie de celui dont la vie se révèle soudain d'une extrême dignité devant Dieu, devant les autres, devant lui-même, parce que Jésus l'a vu et l'a fait descendre de son arbre. Bonne nouvelle, évangile qui fait comprendre que le Dieu de Jésus-Christ est aussi un Dieu qui cherche l'homme, la femme, les humains, un Dieu qui cherche, un Dieu dont l'amour et la grâce disent notre dignité malgré le péché et malgré la mort. Le salut qui entre dans la maison de Zachée et le salut du Dieu qui ne fait pas de favoritisme et qui n'accepte pas de pot de vin, qui se préoccupe de Zachée dans sa faiblesse, sa fragilité d'homme trop petit, trop mal considéré. En quelque sorte, Jésus à Jéricho interprète le texte du Deutéronome. Avec Zachée, Jésus est fidèle au Dieu d'Israël contre la religion, contre ceux qui transforment la foi en morale et la promesse en condition. À Jéricho, Jésus fait œuvre de réforme. Manifestant sa liberté à l'égard de sa propre réputation, à l'égard de la réputation de Zachée, à l'égard de l'interprétation de la loi qui fait de l'obéissance la condition du salut. Et la liberté de Jésus, c'est une liberté dans l'esprit, c'est-à-dire disjointe de l'intérêt personnel, disjointe de la revendication d'indépendance, d'autonomie, qui dérive si souvent en orgueil destructeur et en arrogance écrasante. Et c'est une liberté qui assume les liens, ce qui relie les uns aux autres et ce qui conduit à relire les idéologies, les systèmes, les institutions et leurs dérives de discrimination et de contrôle des personnes. Dans sa fidélité au Dieu libérateur, Jésus va à la rencontre de tous, y compris ceux qui sont négligés, ceux qui sont méprisés, et cela sans jamais actionner le levier de la peur, mais en ouvrant l'accès à la vie vivante. À la suite de Jésus de Nazareth, le Christ, c'est la fidélité à Dieu qui conduit Martin Luther à s'opposer, par exemple, à la pratique des indulgences qui ne sont que marchandage et manipulation de Dieu et des autres. À la suite de Jésus de Nazareth, le Christ, c'est la fidélité à Dieu qui conduit Ulrich Zwingli à réformer l'église de Zurich afin que, par exemple, aucun clerc ne puisse prendre le pouvoir sur les croyants. À la suite de Jésus de Nazareth, le Christ, c'est la fidélité à Dieu qui conduit Jean Calvin, par exemple, à exhorter les protestants de Genève et de France à se dépréoccuper de soi pour se soucier des autres. Leur fidélité à l'Évangile dont le nom est Jésus-Christ, nous nous en souvenons, et elle encourage la nôtre aujourd'hui, celle de nos églises, et la nôtre individuellement. Parce qu'aujourd'hui, et chaque jour, nous nous souvenons de cette bonne nouvelle du bonheur que Dieu veut pour nous et pour tous. Un bonheur qui n'est pas la satisfaction, un bonheur qui est bénédiction. Comme celui que Jésus déploie dans les béatitudes, vous savez, heureux les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui sont compatissants, ceux qui ont le cœur pur, et les artisans de paix, et ceux qui sont persécutés pour la justice. Un bonheur qui est d'être vivant devant Dieu, devant les autres, devant le monde, devant soi. Aujourd'hui et chaque jour, nous nous souvenons, pour prendre infiniment au sérieux ceux qui sont perdus dans les dédales de la consommation, ceux qui sont pris dans les filets de la prédation, des femmes, des enfants et tous les damnés de la terre, et ceux qui sont jugés par des critères mondains, sociaux, moraux ou religieux. Nous nous souvenons, non pas pour rester bloqués dans nos échecs ou nos manquements, mais pour demeurer attentifs à la puissance créatrice manifestée à Pâques. Nous nous souvenons pour protester malgré les incertitudes, les crispations, les affrontements, les malaises et les fragilités générées par la pandémie, par les crises climatiques ou économiques, protester de l'extrême dignité inconditionnelle de chaque être humain. Aujourd'hui, nous nous souvenons, en partageant la scène, que nous sommes reliés les uns aux autres par la compassion, par la solidarité et premièrement par le don qui nous est fait à tous. Nous nous souvenons que Jésus le Christ n'a jamais dit à ses disciples qu'ils étaient meilleurs ou supérieurs aux autres, mais qu'il appelle ceux qui sont perdus, blessés, chargés. Il les appelle à vivre de la vie vivante, la sienne, qu'ils partagent infiniment. Nous sommes aujourd'hui les hôtes de la table de Jésus-Christ, celui qui est don en partage de ce qui nous fait vivre, de ce dont nous avons besoin pour vivre et qui ne vient pas de nous, ni de nos qualités, ni de nos efforts. Et c'est ce que nous rappelle le pain et le vin, comme il nous rappelle aujourd'hui et chaque jour qu'il en est des hommes, des femmes, des enfants qui manquent de pain, de vin, de force, de consolation, d'amour. Partager la scène, c'est faire mémoire de la volonté de Dieu qui, en Christ, n'attend que d'être accueilli chez nous, en nous, afin de soigner, guérir, transformer, reformer notre existence en éclat d'évangile. Amen.